Hébreux 4, 14-15. C'est de miséricorde que nous avons besoin, c'est la grâce qu'il nous faut obtenir, sinon toute notre vie et tous nos efforts aboutiront à une faillite totale. Or, la prière est le moyen d'obtenir l'une et l'autre. Il y a à notre disposition une infinie richesse de grâce que nous pouvons expérimentalement nous approprier par la prière. Oh ! Si seulement nous nous représentions la plénitude de grâce divine mise en réserve pour que nous la demandions, sa hauteur, sa profondeur, sa largeur et sa longueur, je suis sûr que nous passerions plus de temps en prière, car la mesure de grâce que nous nous approprions est à la mesure de nos prières. Qui donc ne sent pas qu'il a besoin de plus de grâce? Eh bien, demandez-la donc. Soyez constant et persévérant, soyez importun et ne vous fatiguez pas de demander. Dieu prend plaisir à nous voir mendier sa grâce avec effronterie, car cela montre notre foi en lui. Or, la foi le réjouit puissamment. À cause de notre importunité, il se lèvera et nous donnera tout ce dont nous avons besoin. Luc 11, 8, nous ne connaissons, pour la plupart, que de petits ruisseaux de miséricorde et de grâce, tandis que nous pourrions en connaître des fleuves débordants. 7. La raison suivante en faveur de la prière constante, persévérante, éveillée et victorieuse est que la prière au nom de Jésus-Christ est le moyen que Jésus-Christ lui-même a établi pour que ses disciples obtiennent la plénitude de la joie. Il déclare cela en quelques paroles simples. « Et belle, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. » Jean 16, 24 parfaite, pleine et entière. Qui donc ne désire pas être tout entier rempli de joie? Eh bien, le moyen d'être tout rempli de joie, c'est de prier au nom de Jésus-Christ. Nous connaissons tous des chrétiens qui sont remplis de joie, qui en sont même débordants. Elles rayonnent de leurs yeux, elles sortent en bouillonnant de leurs lèvres et s'échappent de l'extrémité de leurs doigts quand ils vous serrent la main. Entrer en contact avec eux, c'est entrer en contact avec une machine électrique chargée d'allégresse. Eh bien, les chrétiens de cette sorte sont toujours des chrétiens qui passent beaucoup de temps en prière. Comment se fait-il que la prière au nom de Christ apporte une telle plénitude de joie? C'est en partie parce que nous obtenons par elle ce que nous demandons. Mais ce n'est pas là la seule raison, ni même la principale. La prière nous révèle la réalité de Dieu. Quand nous demandons à Dieu quelque chose de précis et qu'il nous le donne, oh, combien Dieu devient réel! Il est vraiment là. C'est une bénédiction d'avoir un Dieu qui soit une réalité et non pas seulement une idée. Je me rappelle avoir été soudain et sérieusement saisi par la maladie alors que j'étais tout seul dans mon bureau. Je me laissais tomber à genoux et criais à Dieu pour qu'il me secourût. Instantanément, toute douleur me quittait, j'étais parfaitement rétablie. Ce fut comme si Dieu se fût tenu là, debout et qu'ayant étendu la main, il m'eût touché. La joie d'être guéri ne fut certes pas aussi intense que la joie de rencontrer Dieu. Il n'y a pas, sur la terre ou dans le ciel, de joie plus grande que celle de la communion avec Dieu, et la prière au nom de Jésus nous met en communion avec lui. Le psalmiste ne parlait sûrement pas seulement d'une bénédiction future, mais aussi d'une bénédiction présente, quand il disait « Il y a d'abondantes joies devant ta face ». Psaume 16, 11. La joie inexprimable de ces moments où, dans nos prières, nous nous introduisons jusqu'en la présence de Dieu. « Je n'ai jamais connu une telle joie dans la prière, dites-vous ? » Prenez-vous assez le temps de prier pour parvenir réellement jusqu'en la présence de Dieu? Et pendant le temps que vous y consacrez, vous livrez-vous vraiment tout entier à la prière? 8. Une huitième raison pour prier d'une manière constante, persévérante, éveillée et victorieuse et que, dans tous les soucis, les angoisses et les besoins de l'existence, la prière avec action de grâce est le moyen que Dieu a établi pour que nous obtenions la délivrance de toute anxiété et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Ne vous inquiétez de rien, dit Paul, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4, 6-7, pour beaucoup ceci semble à première vue la description d'une vie belle, certes, mais hors de la portée du commun des mortels. Il n'en est rien. Le verset nous dit comment cette vie peut être réalisée par tout enfant de Dieu, ne vous inquiétez de rien ou encore en aucune chose, n'éprouvez de l'anxiété. Le reste du verset nous dit comment, et c'est très simple mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Quoi de plus clair et de plus simple que cela? Vous n'avez qu'à vous tenir constamment en contact avec Dieu, et sitôt qu'une peine ou une contrariété grande ou petite se présente, parlez-lui en sans jamais oublier de lui rendre grâce pour ce qu'il a déjà fait. Quel en sera le résultat? La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est merveilleux et aussi simple que merveilleux. Beaucoup en font l'expérience, Dieu soit béni. Ne connaissez-vous pas quelqu'un qui soit toujours serein? Peut-être est-ce un homme très violent de son naturel, mais les difficultés, les conflits, les revers, les privations peuvent tourbillonner autour de lui, la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde son cœur et ses pensées dans le Christ, Jésus. Nous connaissons tous de telles personnes. Comment s'y prennent-elles? Elles prient, voilà tout. Ces personnes qui connaissent la paix profonde de Dieu, l'insondable paix qui surpasse toute intelligence, sont toujours des hommes et des femmes qui prient beaucoup. Quelques-uns d'entre nous laissent une activité fiévreuse refouler la prière hors de leur vie. Et quelle perte de temps, d'énergie et de force nerveuse entraîne cette perpétuelle agitation. Une nuit de prière nous épargnera beaucoup de nuits d'insomnie. Le temps passé en prière n'est pas du temps perdu, mais du temps placé à gros intérêt. 9. Une neuvième raison pour prier d'une manière constante, persévérante, éveillée et victorieuse, est que la prière est la méthode établie par Dieu lui-même pour que nous obtenions le Saint-Esprit. Sur ce point, la Bible est très claire. Jésus dit si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Luc 11, 13, des hommes de notre époque et d'excellentes personnes entre autres nous disent il ne faut pas prier pour obtenir le Saint-Esprit. Mais que font-ils donc de la claire déclaration de Jésus-Christ à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Il y a quelques années, comme j'avais annoncé une allocution sur le baptême du Saint-Esprit, un frère vint à moi et me dit d'un ton pénétré « Ayez bien soin de leur dire qu'il ne faut pas prier pour obtenir le Saint-Esprit. » Je ne leur dirai certainement pas cela car Jésus déclare à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. « Oh, oui, répliqua-t-il, mais c'était avant la Pentecôte. » Et Actes 4, 31, était-ce avant ou après la Pentecôte? Après, bien sûr. Eh bien, lisez. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Après. Lisez, s'il vous plaît. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Il ne répondit rien. Qu'aurait-il pu répondre? Il est clair comme le jour, dans la parole de Dieu, qu'avant la Pentecôte et après, le premier baptême comme les expériences ultérieures de plénitude du Saint-Esprit furent accordées en réponse à la prière qui les réclamait d'une façon précise. L'expérience l'enseigne également. Sans doute, beaucoup ont reçu le Saint-Esprit au moment même où ils se sont livrés à Dieu avant d'avoir eu le temps de prier pour cela. Mais combien en est-il qui savent que leur première expérience précise du baptême du Saint-Esprit eut lieu tandis qu'ils étaient à genoux ou prosternés devant Dieu, seuls ou en compagnie d'autres frères et qui, maintes et maintes fois depuis lors, ont été remplis du Saint-Esprit tandis qu'ils priaient? Je sais cela d'une manière aussi certaine que je sais que ma soif a été étanchée lorsque j'ai bu de l'eau. Un matin de bonne heure, dans la salle de prière de l'église de l'avenue de Chicago, où plusieurs centaines de personnes avaient prié ensemble plusieurs heures durant, le Saint-Esprit descendit d'une manière si évidente, et ce lieu fut si rempli de sa présence que personne ne put plus parler ni prier, mais qu'on n'entendit plus que des sanglots de « joie ». Des hommes quittèrent la salle, pour différents endroits, prenant le train ce matin même, et des nouvelles nous revinrent bientôt des fusions de l'Esprit de Dieu, en réponse à la prière. D'autres se répandirent dans la ville, et la bénédiction de Dieu reposa sur eux. Ceci n'est qu'un fait d'expérience personnelle, parmi tous ceux que je pourrais citer. Si seulement nous passions plus de temps en prière, on verrait davantage dans notre travail la plénitude de la puissance de l'Esprit. Bien des hommes qui naguère ont travaillé manifestement dans la puissance du Saint-Esprit remplissent aujourd'hui l'air de leurs exclamations creuses et l'agitent de leurs gesticulations vaines parce qu'ils ont laissé refouler la prière hors de leur vie. Si nous voulons continuer dans la puissance de l'Esprit-Saint, il nous faut passer beaucoup de temps sur nos genoux devant Dieu. 10. Une dixième raison pour prier d'une manière constante, persévérante, éveillée et victorieuse, et que la prière est le moyen établi par Christ pour que nos cœurs ne s'appesantissent pas par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et qu'ainsi le jour du retour de Christ ne vienne pas sur nous à l'improviste comme un filet. Un des passages sur la prière les plus intéressants et les plus solennels de la Bible suit cette ligne de pensée. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet, sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Luc 21:34-36. D'après ce passage, il n'y a qu'un moyen par lequel nous puissions être prêts pour la venue du Seigneur, quand il apparaîtra, c'est par beaucoup de prières. Le retour de Jésus-Christ est un sujet qui, de nos jours, éveille beaucoup d'intérêt et provoque de nombreuses discussions. Mais c'est une chose que de s'intéresser au retour du Seigneur et d'en parler, et tout autre chose que d'y être préparé. L'atmosphère dans laquelle nous vivons tant constamment à nous rendre impropres pour la venue de Christ. Le monde cherche à nous attirer en bas par ses jouissances et ses préoccupations. Il n'y a qu'un moyen par lequel nous puissions nous élever triomphants au-dessus de ces choses, c'est d'être constamment veillant dans la prière, c'est la prière éveillée. Veiller en tout temps sont les mêmes expressions fortes que nous avons vues en Éphésiens 6:18. Celui qui passe peu de temps à la prière, qui n'est pas inébranlable et constant dans la prière, ne sera pas prêt pour le Seigneur quand il viendra. Mais nous pouvons être prêts comment? Prions. 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 11. Il y a une raison encore en faveur de la prière constante, persévérante, éveillée et victorieuse, et une puissante raison, c'est ce que la prière accomplit. Après tout ce qui a déjà été dit sur ce sujet, il resterait beaucoup à dire encore. La prière favorise notre croissance spirituelle, comme presque rien d'autre ne peut le faire, ou mieux comme rien d'autre ne le fait si ce n'est l'étude biblique. Du reste, la vraie prière et la vraie étude biblique marchent la main dans la main. C'est par la prière que mon péché le plus caché, est amené à la lumière. Lorsque, prosterné devant Dieu, je m'écris sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Prouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Psaume 139, 23-24, Dieu lance les rayons de sa pénétrante lumière jusqu'au plus profond repli de mon cœur et des péchés insoupçonnés sont mis en évidence. En réponse à la prière, Dieu me lave complètement de mon iniquité et me purifie de mon péché. Psaume 51, 4, en réponse à la prière, mes yeux sont ouverts pour que je contemple les merveilles de la parole de Dieu. Psaume 119, 18, en réponse à la prière, j'obtiens la sagesse pour discerner les voies de Dieu chacun, 5 et la force pour y marcher. Quand, dans la prière, je rencontre l'Éternel et contemple sa face, je suis transformé à son image de gloire en gloire. 2 Corinthiens 3, 18, chaque jour d'une vraie vie de prière me rend plus semblable à mon glorieux Seigneur. John Welch, le gendre de John Knox, était un des plus fidèles hommes de prière que le monde ait jamais vu. Il estimait perdu toute journée dans laquelle 7 ou 8 heures n'avaient pas été passées, seul avec Dieu, dans la prière et l'étude de sa parole. Or, un vieillard disait de lui, après sa mort, qu'il avait été un type de Jésus-Christ. Comment parvint-il à être si semblable à son maître? Sa vie de prière est la clé du mystère. De la prière est une source de puissance pour notre travail. Si nous désirons la puissance pour un travail quelconque auquel Dieu nous appelle, que ce soit la prédication, l'enseignement, la cure d'âme ou l'éducation de nos enfants, nous pouvons l'obtenir par la prière fervente. J'eus un jour la visite d'une dame dont le petit garçon était absolument incorrigible. Désespérée, elle s'écriait « Que faire avec lui ? Avez-vous jamais essayé la prière ? Demandai-je. Elle pensait bien l'avoir fait. Mais, dis-je encore, avez-vous fait de sa conversion et du changement de son caractère un sujet de prière précis et vous êtes-vous attendu à l'exaucement? Je n'ai pas été si précise en cela. Elle commença ce jour même et aussitôt il y eut un changement marqué chez l'enfant, il grandit et devint un chrétien. Ma moniteur d'école du dimanche a enseigné pendant des mois et des années sans voir vraiment de fruits à ses efforts. Puis, ayant appris le secret de l'intercession, il a vu s'approcher de Christ un à un ceux pour lesquels il avait plaidé avec ferveur auprès de Dieu. Mon pauvre prédicateur est devenu un puissant homme de Dieu en rejetant loin de lui toute confiance en ses dons et capacités personnelles pour s'abandonner à Dieu et attendre de lui la puissance d'en haut. John Livingstone, avec quelques frères animés des mêmes sentiments, passa une nuit en prière et entretien spirituel devant Dieu et quand il prêcha le jour suivant dans l'église de Schott, 500 personnes furent converties ou purent faire dater de ce jour quelques progrès décisifs dans leur vie. Prière et puissance sont inséparables l'une de l'autre. 3. La prière est efficace pour la conversion des âmes. Peu de conversions s'opèrent dans le monde sans que la prière d'autrui soit intervenue. En ce qui me concerne personnellement, j'ai longtemps pensé qu'aucun être humain n'avait été pour quelque chose dans ma conversion, car je ne fus converti ni à l'église, ni à l'école du dimanche, ni au cours d'un entretien personnel avec quiconque. Je fus réveillé au milieu de la nuit et converti. Autant que je puisse me rappeler, je n'avais pas, en me couchant et en m'endormant, la moindre idée de conversion ou de quelque chose de cet ordre. Mais je fus réveillé au milieu de la nuit et converti en moins de 5 minutes. Quelques minutes plus tôt, j'étais aussi près de la perdition éternelle que n'importe qui. J'avais un pied par-dessus bord et m'appliquais à y passer l'autre. Je pensais, dis-je, qu'aucun être humain n'avait été pour quelque chose dans ma conversion, mais j'avais oublié les prières de ma mère et j'appris plus tard qu'un de mes camarades de collège avait décidé de prier pour moi jusqu'à ce que je sois sauvé. La prière réussit souvent là où tout le reste échoue. Combien inutilement Monique prodigua-t-elle ses efforts et ses exhortations auprès de son fils, mais ses prières prévalurent auprès de Dieu, et le jeune homme dissolu devint saint Augustin, l'influent homme de Dieu. Grâce à la prière, des ennemis acharnés de l'Évangile sont devenus ses plus vaillants défenseurs, les pires scélérats de vrais enfants de Dieu, et les femmes les plus dégradées, les saintes les plus pures. Oh ! Le pouvoir de la prière pour descendre chercher les hommes, les femmes les plus bas tombées, au plus profond de l'abîme, et les élever plus haut que les plus hautes cimes jusqu'à la communion et la ressemblance avec Dieu. C'est vraiment merveilleux. Comme nous savons mal apprécier cette arme extraordinaire. 4. La prière est une source de bénédiction pour l'Église. L'histoire de l'Église est pleine de graves difficultés qu'il a fallu vaincre. Le diable à l'Église cherche par tous les moyens à enrayer ses progrès, tantôt par les fausses doctrines, tantôt par les divisions, tantôt par le relâchement dans les mœurs. Mais par la prière, un chemin uni peut être frayé à travers toutes ces choses. La prière déracinera les hérésies, dissipera les malentendus, balayera les jalousies et les animosités, supprimera l'immoralité et ramènera comme une marée le flot vivifiant de la grâce divine. L'histoire le montre abondamment. Aux heures de plus sinistre augure, quand le cas de l'Église locale ou universelle semblait désespéré, des hommes et des femmes de foi se sont réunis pour crier à Dieu et la réponse est venue. Il en fut ainsi autant de Knox, il en fut ainsi autant de Wesley et de Whitfield, il en fut ainsi autant d'Edwards et de Brenner, il en fut ainsi autant de Finney, il en fut ainsi autant des grands réveils de 1857 en Amérique, de 1859 en Irlande, et il en sera encore ainsi de nos jours. 3. Satan a disposé ses armées. La science chrétienne avec son faux Christ, une femme lève la tête. D'autres qui prétendent appliquer des méthodes apostoliques parle avec une grande assurance, mais couvre hypocritement de ses prétentions la plus extrême corruption. Des chrétiens également fidèles, aux grandes vérités fondamentales de l'Évangile, dardent les uns sur les autres des regards chargés d'une suspicion insufflée par Satan. Le monde, la chair et le diable mènent grand tapage. Nous vivons une sombre époque, mais maintenant il est temps que l'Éternel agisse. Ils ont annulé ta loi. Psaume 119, 126 L. Et Dieu justement s'apprête à agir, il écoute maintenant si la voix de la prière va s'élever vers lui. S'élèvera-t-elle? S'élèvera-t-elle de votre bouche? S'élèvera-t-elle de l'Église tout entière? Je le crois fermement. Un torrent cite d'après l'autorise version Fuso Bible, mais il recourt à la revise version quand une nuance de sens est mieux rendue par cette dernière. Nous citons d'après la version Segond, la plus répandue dans nos pays de langue française.